Nostradamus est devenu célèbre pour ses prédictions en quatrain au sens caché. Sa source d'inspiration était probablement un esprit familier, un démon en somme. Dans ses écrits, il annonce une fin du monde qui sera tragique pour l'humanité. Sous cet aspect, il rejoint l'apôtre Paul, dont il s'est peut-être aussi inspiré. Je commence à lire le troisième chapitre de la deuxième épître à Timothée. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. La période finale de l'histoire, aussi appelée les derniers jours ou la dernière heure, a débuté avec la venue du Christ et se terminera par l'enlèvement de l'Église universelle qui comprend tous les vrais croyants éparpillés dans le monde. Pour Israël, par contre, les derniers temps commenceront après l'enlèvement de l'Église. Paul dit que les temps seront difficiles. Ce mot veut dire « rempli de dangers ». L'écrivain grec, Plutarque, l'utilise pour décrire une vilaine plaie infectée qui suppure. Au fur et à mesure que l'humanité se rapprochera de la fin de son histoire, les temps difficiles seront de plus en plus fréquents. Ni les magouilles politiques, ni les beaux discours, ni les scientifiques ne vont amener le ciel sur la terre. Il y a toujours eu des idéalistes qui rêvent éveillés et qui annoncent pour demain la paix universelle, l'éradication des maladies et de la pauvreté. En réalité, ce monde finira dans un immense brasier, puis le Seigneur descendra du ciel pour établir son royaume, et alors, ce sera le millénium et la vraie paix. Dans sa première lettre, l'apôtre a déjà averti Timothée que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Et dans le chapitre suivant, il annonce le clou en disant « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » L'apôtre annonce que l'avenir de l'Église sera sombre. Ces prédictions se sont réalisées puisque, jusqu'au fil des siècles, des hérésies de plus en plus nombreuses se sont introduites dans le christianisme et en ont fait un amalgame fourre-tout qu'on appelle la chrétienté. Déjà, à l'époque de Paul, les fausses doctrines issues de la philosophie grecque, du paganisme et du judaïsme avaient pénétré dans l'Église apostolique. Très tôt, un clergé fut élaboré pour remplacer les laïcs qui, auparavant, étaient les responsables des Églises. Puis, ce fut l'introduction des sacrements qui haussèrent encore davantage l'autorité des prêtres qui les administraient. Ces rituels se suffisent à eux-mêmes dans le sens que pour le peuple, ce sont des actes de magie et bien qu'on mentionne Dieu en passant, il n'est plus vraiment nécessaire. Plus tard, ce fut au tour de la raison humaine d'évincer l'idée de Dieu tandis que, dans les églises, la liturgie et l'orthodoxie l'avaient étouffé, faisant de lui un être impersonnel et lointain. Plus récemment, est apparu l'œcuménisme, une philosophie religieuse où l'on se tient tous par la main parce que la seule chose qui compte, c'est l'amour. Il s'ensuit qu'on ne doit pas parler des choses qui fâchent et qui divisent, et peu importe les systèmes de croyance, puisqu'ils se valent tous. Le mouvement de la Réforme a essayé de retourner à l'enseignement de la base de la parole de Dieu, mais aujourd'hui, il est tellement fractionné qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Cet état de confusion est un coup de maître des puissances des ténèbres qui veulent décourager ceux qui cherchent la vérité. De nos jours, les nouveaux gourous prônent l'expérience personnelle et le mysticisme. Ils enseignent que c'est par son institution et ses émotions que l'homme découvre Dieu. Quelle que soit l'hérésie, elle remplace toujours la vérité des Écritures par des idées humaines. De plus, toutes ces fausses croyances s'accumulent les unes sur les autres, ce qui ne fait que rajouter de l'eau au moulin de la confusion. Que les païens refusent de croire en la parole de Dieu, ça se comprend puisque ce sont des non-croyants. Mais le pire et le plus lamentable aspect du rejet de l'autorité des Écritures est qu'il provient de l'intérieur du christianisme. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, à la fin de son troisième voyage missionnaire, Paul a dit aux responsables de l'église d'Éphèse « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. » L'apôtre Pierre aussi avertit ses lecteurs disant « Autrefois, il y eut des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Jésus a promis qu'il bâtira son Église, mais il n'a jamais dit que ça se ferait sans problème. Au contraire, dans le sermon sur la montagne, il a prévenu ses disciples disant « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. » Et à la fin de son ministère, Jésus a enfoncé le clou quand il a dit « De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. » De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes, ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Je continue l'épître de Paul. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux, diffamateurs, ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, traîtres, impulsifs et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. L'apôtre va énumérer une petite vingtaine de vices qui seront de plus en plus répandus dans les derniers temps. Il existe des listes similaires, mais celles-ci concernent plus particulièrement des faux frères et même des anciens à Éphèse. Les hommes seront égoïstes. Littéralement, ils auront une grande affection pour eux-mêmes. Chaque fois que les gens s'élèvent, ils abaissent Dieu. C'est le péché que Lucifer a commis. Tous les hommes ne seront pas des meurtriers, mais tous sont orgueilleux. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure chez les vedettes de cinéma et du sport, en politique et dans le monde des affaires. Chacun se croit le meilleur. Même ceux qui fréquentent une église désirent être flattés et complimentés sur leur religiosité. La vérité ne les intéresse pas et ils refusent d'entendre qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'un sauveur et que le premier devoir de l'homme est d'aimer Dieu et son prochain. Depuis le début du christianisme, même les théologiens, les moins fidèles aux Écritures, reconnaissent que l'amour de soi ou l'orgueil est la racine du péché. Mais depuis le XIXe siècle, la philosophie humaniste, avec la théorie de l'évolution comme fer de lance, a remplacé Dieu par l'homme. Des psychologues ont emboîté le pas aux intellectuels et aux scientifiques en annonçant que c'était le manque d'amour de soi qui était au centre des problèmes humains. Ce mensonge, pourtant grossier, s'est non seulement répandu dans notre culture, mais depuis la fin du XXe siècle également dans les églises. Main dans la main, avec l'orgueil, sont l'amour de l'argent, la convoitise, le matérialisme et l'accumulation des biens. La nature dégénérée de l'homme aime qu'on s'intéresse à elle et qu'on la flatte. Avant, on comptait les millionnaires, mais maintenant, ils sont tellement nombreux que ce sont les milliardaires qui sont en vedette. Et c'est à Londres que leur densité est la plus forte. Certains PDG sont payés à coups de centaines de millions de dollars, et pendant ce temps, les pauvres et les destitués sont de plus en plus nombreux. Ce capitalisme sauvage donne des nausées. Si vous êtes fortuné, lisez la parabole de Jésus dans Luc au chapitre 16. Dans sa première épître à Timothée, Paul écrit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Comme Éphèse était une ville riche, il est probable qu'il avait à l'esprit certains membres de l'Église qui, à cause de leur richesse, s'étaient détournés de la foi. Le problème n'est pas l'argent, mais l'attitude qu'on adopte à son égard. Il n'est pas étonnant que les croyants qui ont une hypertrophie du moi s'attendent à ce que Dieu pourvoie non seulement au nécessaire, mais aussi au luxe. La convoitise conduit à croire qu'on mérite mieux et davantage, ce qui conduit à désirer toujours plus. Une des manifestations de l'amour de soi est d'être vantard et prétentieux. Cette sorte de gens se croient supérieurs aux autres. Le vantard exagère ses accomplissements, et à l'entendre, on croirait qu'il a tout vu, tout entendu, et qu'il n'a plus rien à apprendre. Le prétentieux est plus discret, mais dans son cœur, il méprise son prochain. Jésus a raconté une parabole spécialement pour eux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Paul dit aussi que les hommes seront diffamateurs. Le mot grec a donné « blasphème ». Ces gens mettent le nez dans les affaires des autres afin de les dénigrer et les noircir. De plus, ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Selon le point de vue humaniste, les enfants sont naturellement bons. Il ne faut donc pas les discipliner. Ça pourrait dérégler leur psychisme délicat. Il s'ensuit que les parents n'osent plus discipliner leurs enfants qui n'apprennent pas à respecter ni leurs parents ni l'autorité en général. Les hommes n'ayant d'égard pour personne et croyant que tout leur est dû, ils deviennent ingrats. Paul ajoute qu'ils seront dépourvus de respect pour ce qui est sacré ou sacrilège. Le mot grec veut dire indécence grossière. Et ça se disait pour quelqu'un qui était incestueux ou qui refusait d'enterrer un mort. Les hommes seront sans cœur, c'est-à-dire totalement centrés sur eux-mêmes, insensibles, durs comme de la pierre et dépourvus d'affection même envers leurs proches. Ils seront sans pitié, implacables et brutaux dans leurs relations avec les autres. Déterminés, ils n'acceptent aucun compromis et ne pardonnent rien. Ils seront calomniateurs. Le mot grec « diabolos » veut dire « accusateur ». Ils seront incapables de se maîtriser. Le mot grec veut dire « incontinent », c'est-à-dire ils se laissent aller à ses passions et ambitions. Ils seront cruels et brutaux, comme des animaux sauvages, ennemis du bien. Ils choisiront le mal en toute connaissance de cause. Ils seront traîtres, même envers leur famille, impulsifs, parce que seul compte le moment présent. Enflé d'orgueil, le mot signifie « enveloppé dans de la fumée » et sous-entend qu'ils ne voient pas au-delà d'eux-mêmes. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Ceux qui rejettent les valeurs traditionnelles chrétiennes tombent dans le paganisme dont une caractéristique est la gratification immédiate de ses désirs. La recherche du plaisir devient alors une quête perpétuelle. Le sport, l'industrie cinématographique et les spectacles en tout genre séduisent des milliards d'êtres humains qui font du divertissement leur dieu. J'aime bien regarder un film avec effets spéciaux ou un match de foot de temps en temps à la télé. Mais ça s'arrête là. D'ailleurs, ma préférence personnelle est pour les reportages sur la nature parce qu'on y voit l'infinie sagesse et la puissance du Créateur. Je continue le texte. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Les hérétiques sont toujours très attachés aux formes extérieures de la piété, comme les rituels religieux, mais en réalité, ce sont des charlatans. Ils se présentent comme des serviteurs de Dieu qui enseignent sa parole, alors qu'en fait, leur maître est Satan, et il propage ses mensonges. Ces gens sont très dangereux pour les croyants mal affermis et pour ceux qui cherchent Dieu, parce que ni les uns ni les autres n'ont le discernement nécessaire pour démasquer les faux apôtres. De plus, chat et soldé craint l'eau froide. Les gens qui sont floués par des hérétiques qui se sont fait passer pour des serviteurs de Dieu se méfient ensuite des vrais croyants. Alors bien sûr, il est ensuite très difficile de présenter la bonne nouvelle à de telles personnes qui ont déjà été trompées parce qu'elles se méfient de vous. Il n'est donc pas étonnant que l'apôtre dise à Timothée de fuir ces faux apôtres comme la peste. Littéralement, il écrit « Force-toi à te détourner de ces gens-là ». Je continue le texte. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, au passé chargées et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Généralement, les sectes chrétiennes comprennent une majorité de femmes et beaucoup ont souvent un passé chargé. Bien que non-croyantes, elles sont sensibles aux réalités spirituelles car elles ressentent le poids de leurs fautes et c'est aussi ce qui fait d'elles des proies faciles pour les faux apôtres. Seulement, dans les sectes, on ne trouve pas la vérité qui affranchit et le salut par la foi. Mais un ensemble de rites qui flattent l'orgueil humain, toujours prêt à se vanter de ses accomplissements. Je continue. De même qu'autrefois, Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Ces deux hommes que Paul mentionne étaient les magiciens du Pharaon qui reproduisent les premiers miracles de Moïse. Il faut en effet savoir que, dans une certaine mesure, Satan peut imiter Dieu. Tout ce qui brille n'est pas or et toute manifestation surnaturelle ne vient pas de Dieu. L'apôtre Jean écrit « Attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus au travers le monde. » Les puissances des ténèbres sont présentes sur la terre et le monde occulte est une réalité particulièrement dangereuse dont il faut se garder. Je continue. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux imposteurs. Les faux apôtres peuvent faire de gros dégâts, c'est incontestable, mais éventuellement, leur perversité se révèle au grand jour et ils finissent leur carrière en prison pour une sombre affaire de morse ou d'argent volé. C'est presque toujours le même scénario. Je continue le texte. « Mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mon objectif, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. » L'apôtre n'avait rien à cacher et sa vie était un livre ouvert que n'importe qui pouvait lire, à l'exception des 12 apôtres qui furent formés par Jésus. Aucun croyant n'a jamais eu un meilleur exemple de vie chrétienne que Timothée en la personne de Paul. « Mais toi, dit l'apôtre, tu m'as suivi. » Le mot « suivi » exprime la relation étroite entre un maître et son disciple. Il signifie accompagner et se conformer par conviction. Pendant des années, Timothée avait observé sept caractéristiques concernant Paul. Premièrement, son enseignement. Et comme il était apôtre, ce qu'il disait dans l'exercice de son ministère était inspiré de Dieu. Deuxièmement, sa conduite. Or, Timothée avait pu constater qu'elle était conforme à son enseignement. Troisièmement, son objectif, c'est-à-dire ses mobiles et la passion qui l'animait. Ailleurs, Paul écrit « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle ». Quatrièmement, Timothée a pu observer la foi de l'apôtre, c'est-à-dire sa fidélité à Dieu et sa confiance en lui, malgré la sévérité de ses difficultés. Cinquièmement, sa patience. Mais le mot ainsi traduit signifie aussi persistance, constance et endurance. Il décrit quelqu'un d'absolument déterminé et qui n'abandonne jamais, quel que soit le prix à payer. Sixièmement, Timothée a vu à l'œuvre l'amour de l'apôtre. Il était tellement désintéressé, pur comme un diamant. Finalement, Paul manifestait une persévérance à toute épreuve. Ce mot était très voisin de celui qui est traduit par « patience ». Je continue le texte. « Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas subies ? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. » À Lystre, Paul fut lapidé, et il semble même qu'il mourut, mais Dieu le ressuscita. Le mot pour « persécution » dérive du verbe « obliger à fuir ». À plusieurs reprises, à cause de leur témoignage pour Jésus-Christ, Paul et Timothée s'étaient trouvés dans des situations très menaçantes qui les avaient forcés à prendre la fuite. Je continue. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Ceux qui veulent servir Jésus-Christ peuvent s'attendre à de l'opposition, des moqueries et peut-être même des persécutions. Dans certains pays, celui qui se convertit à Jésus-Christ met sa vie en danger. Et parce que la méchanceté va aller en augmentant, la situation des vrais croyants dans le monde ira en empirant, et cela jusqu'au retour du Seigneur qui viendra chercher les siens. Ce jour glorieux sera l'enlèvement de l'Église dans les cieux. Maranatha, Seigneur, viens.